Au processus électoral en RDC, les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies en RDC encouragent la révision du fichier électoral. Selon le chef de la MONUSCO, le secrétaire général de l'ONU attend une révision du fichier électoral crédible et inclusive. Maman Sidikou exhorte la classe politique congolaise à ne pas politiser la question des révisions du fichier électoral, qui est aussi une matière technique. Comment analyser cet appel du chef de la MONUSCO? Nous en parlons avec François Nzekouye, le député national de la majorité présidentielle et cadre du Fernet. Bonsoir, honorable François Nzekouye.
Bonsoir, Guy Maté. Meilleurs voeux à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Emery Okundji, député national de l'opposition et cadre du FONUS. Il est également président du réseau parlementaire pour les droits de l'homme, REPADOC en sigle. Bonsoir, honorable Emery Okundji.
Bonsoir.
Et Jérôme Bonso, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle. Il est aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État en sigle. Bonsoir, monsieur Jérôme Bonso.
Bonsoir, cher ami Guy. Mes voeux à tous les nombreux auditeurs de la télévision de la paix radio, de la radio de la paix radio Capi.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Ne perdons pas le temps car il y a nécessité de nous pencher sur la révision du fichier électoral. Les mots sont du chef de la MONUSCO à l'issue d'une séance de travail tenue hier lundi avec le président de la CENI. Maman Sidikou a affirmé que la secrétaire générale de l'ONU veut une révision du fichier électoral crédible et inclusive. Il ajoute que les partenaires sont prêts à soutenir cette opération. Des propos recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Le secrétaire général devra voir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour les informer des détails sur la conduite des élections et en particulier la révision du fichier électoral. Il faut que chacun soit dans son rôle. C'est le rôle de la CENI de préparer les choses de façon claire, indépendante, inclusive et crédible. C'est le rôle des partenaires politiques, que ce soit la majorité ou l'opposition, de se mettre d'accord sur le reste. Ne demandez pas à la CENI de faire plus que ce qu'elle peut faire. Mais je peux ajouter, in fine, que les partenaires sont prêts en ce qui concerne un soutien à la révision du fichier électoral. Qu'on nous dise simplement comment ça va être fait, etc. C'est quand le jour J pour que nous commencions. Parce que ça, c'est un préalable à tout le reste. Mais c'est aussi un travail technique, au fond. Peut-être pas que nous perdions trop de temps à politiser ça. Il faut que nous trouvions une formule assez rapide sur cette question-là.
François Nzekouye, député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD, vous venez sur le monsieur Maman Sidikou dans cet appel. Il dit ne perdons pas le temps car il y a nécessité de nous pencher sur la révision du fichier électoral. Comment vous réagissez à cet appel?
Moi, je partage le point de vue de Maman Sambo Sidikou à plusieurs titres. D'abord, en tant que membre ou observateur de la commission d'audit du fichier électoral qui a été conduit par l'OIF, mais en même temps, en tant que citoyen congolais, j'estime absolument que il faille qu'on aille rapidement vers la révision du fichier électoral. Ce fichier électoral est entaché de beaucoup de failles. Et vous savez, depuis 2011, on a recensé autour de 4 millions de morts qui sont aujourd'hui sur le fichier électoral. Et qui, si on convoque les élections aujourd'hui, on les considérerait comme étant votant et éligible, ce qui ne pourra dans les concrets être le cas. Il y a les problèmes des nouveaux majeurs que nous connaissons tous. Notre constitution dit que ont droit de participer aux élections et être éligibles les personnes ayant 18 ans révolus. Et donc aujourd'hui, il y aurait à peu près 8 millions de citoyens congolais qui serait privé du droit de vote si cette révision ne se faisait pas. Il y a également des doublons dans les fichiers électoraux, des personnes dont les noms se trouvent repris 2, 3, parfois même 4 fois sur les fichiers électoraux et qui pourraient biaiser les résultats électoraux. Et donc, tenant compte de toutes ces questions, technique du reste, comme l'a si bien dit Maman Sambo, il faut bien que la CENI procède à la révision de ces fichiers électoraux pour qu'ils soient un instrument fiable pour nos élections. On ne peut pas aujourd'hui organiser des élections avec des candidats décédés, des électeurs décédés, ni exclure une bonne frange de notre population, 8 millions d'habitants, ce n'est pas rien du tout. Les élections de 2011, nous étions, à ma connaissance, je crois, 32 millions d'électeurs.
Environ 30 millions
d'électeurs. 30 millions d'électeurs. Donc, c'est plus ou moins le tiers des électeurs de 2011 que nous pourrions exclure de ces processus si jamais il n'y a pas de révision du fichier électoral. Donc, de mon point de vue, c'est un une thèse qui a déjà été dite, l'OIF l'a dit. Aujourd'hui, c'est le mandat spécial du président des Nations Unies qui les rédit et nous avons toujours dit que cela était important.
Oui, François Zekouye, vous l'avez dit, il ressort de propos de M. Manissidikou une préoccupation, n'est-ce pas, liée au facteur temps. Vous venez aussi de relever les raisons qui justifient le fait qu'il faut aller rapidement vers la révision de ces fichiers électoraux, notamment les nouveaux majeurs qui doivent être inscrits, les décédés, les personnes décédées qui doivent être radiées, n'est-ce pas, de ces fichiers électoraux, et les doublons. Mais est-ce que vous pensez que, pas seulement la majorité, mais tous les acteurs politiques qui prônent les dialogues comme préalables au processus électoral, vous pensez qu'ils tiennent aussi compte de ces facteurs temps?
Je crois qu'ils en tiennent compte. Et moi, je crois que si la classe politique congolaise était consensuelle, déjà en 2013, quand les chefs d'État avaient convoqué les concertations nationales, nous en serions beaucoup plus loin aujourd'hui. Nous aurions pu régler un certain nombre de problèmes déjà à ce temps-là. Ben, maintenant que les chefs d'État ont réitéré cette demande que la classe politique se réunisse et une bonne frange de la classe politique sociale de notre pays est d'accord, il faut qu'on se réunisse le plus vite possible. Non pas par rapport à la révision du fichier électoral, mais par rapport au calendrier électoral. Parce que le calendrier électoral, vous savez très bien qu'il avait été demandé à corps et à cri par la classe politique congolaise, de l'opposition comme de la majorité, par la communauté internationale, comme étant un calendrier global et inclusif. Mais à peine sorti, ce calendrier a été critiqué et une frange de la classe politique en a proposé une autre, sans l'accord des autres. Et donc, ce calendrier aujourd'hui qui n'a pas du tout été exécuté, parce que nous avons 11 scrutins à organiser, il faut les dire, il faudrait donc que nous nous mettions autour d'une table pour décider quels scrutins nous allons avoir, lesquels vont être préalables aux autres, et comment convaincre ceux qui ont été élus et ont respecté leur délai constitutionnel de 5 ans, pourquoi doivent-ils aller aux élections pendant que les autres qui devraient aussi être élus en 5 ans ne l'ont pas été et ont un supplément de 3 ou 4 ans et qui sont en train d'exercer et ils agissent au nom de l'État sans que cela ne soit mal vu par les uns ou les autres.
Oui, et donc il faut aller rapidement à cette révision du fichier électoral entre-temps et il faut aussi se trouver autour d'une table pour dialoguer. Et vous pensez que c'est réaliste s'il faut concilier, n'est-ce pas, cette exigence par rapport à l'exigence des temps? Vous pensez que c'est réaliste?
Oui, en fait, le problème n'est pas un problème d'exigence de temps. Le problème, c'est un problème de cohérence, de respect des dispositions constitutionnelles. Parce que certains d'entre nous tiennent à ce que la date fixée pour les élections présidentielles soit respectée, parce que la Constitution le prévoit. Mais en même temps, d'autres vous disent que la même constitution prévoit que tous les majeurs doivent participer au vote. Or, nous savons que la révision du fichier électoral, celle de 2006, comme celle de 2011, ont pris 14 mois. Et donc, la plupart de ces opérations ont dépassé ces délais, ou s'ils doivent se faire, risquent de dépasser ces délais. À moins que nous ayons des technologies nouvelles, des méthodes nouvelles qui nous permettent de limiter tout cela dans les délais et qu'on aille aux élections en commençant par les élections locales telles que nous les préconisons ou alors qu'on trouve un consensus avec l'opposition et la société civile pour qu'on se dise lesquelles des élections doivent être faites pour que nous puissions gagner du temps.
Ça, c'est encore un autre débat, mais aussi il y a un autre débat dans la classe politique actuellement. Tout le monde semble être d'accord sur le fait qu'il faut aller vers cette révision des fiches électorales, mais les uns, ça c'est l'opposition, une partie de la société civile estime que il faut passer par l'enrôlement des électeurs, et tandis que les autres, donc vous de la majorité, vous avez prôné les recensements.
En fait, je crois que ce sont des choses qui sont complémentaires. D'abord, vous savez aujourd'hui qu'avec les 26 provinces, la mise en place en œuvre des 26 provinces, les adresses de la plupart des électeurs, sauf ceux de Kinshasa, des Congo central, encore que le nom Congo central a changé, Nord Kivu, vont changer. Ceux qui étaient du Bandundu à l'époque, il y en a qui seront la province de Kwango, d'autres de Kwilu, d'autres de Maïndombe, et donc les adresses changent. Et donc, par conséquent, il faudrait, de mon point de vue, enrôler tous les électeurs, y compris ceux qui sont enrôlés aujourd'hui, tenant compte de cette question du changement d'adresse.
Merci, Emery Okundji, député national de l'opposition et cadre d'Ifonis. Vous êtes également président du réseau parlementaire pour les droits de l'homme, Repadoc en sigle. Comment vous analysez cet appel du chef de la MONUSCO qui exhorte la classe politique congolaise à ne pas politiser la question des révisions du fichier électoral?
Merci. Guimaté, mais permettez-moi d'accomplir les devoirs de présenter à nos différents auditeurs de Radio Capi le vœu de nouvel an, que cette année 2016 soit une année déterminante pour la tenue des élections apaisées et crédibles dans notre pays. Guimaté, vous savez, est l'organisation des élections transparentes, crédibles et apaisé, doit répondre à un certain nombre de défis, des défis à relever.
Quels sont ces défis?
La révision du fichier électoral, vous, comme l'a dit le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, les défis financiers, et la recherche, la mobilisation des fonds, etc. Plusieurs défis. Mais le plus important, c'est la révision du fichier électoral, surtout dans notre pays. Parce que vous savez que nous sortions des élections chaotiques, des élections qui ne représentent pas, ne reflètent pas la volonté du souverain primaire. Et donc, il y a un problème. Et nous ne cessions de demander l'audit du fichier
électoral.
Évidemment,
c'est votre point de vue, hein?
Oui,
du fichier. Quand vous dites que ces élections ne reflètent pas le point de vue de la population, ça c'est...
Mais les différents rapports l'ont prouvé. Le rapport de l'Union européenne, les rapports récents de l'Organisation internationale de la francophonie, parce que là, on conclut que ce fichier est un fichier corrompu, contient beaucoup de doublons. Ce fichier a favorisé certaines provinces avec l'enrôlement des mineurs, et donc il y a beaucoup d'étrangers, et d'ailleurs la saisie de 22 fausses cartes d'électeurs sur les réfugiés burundais cantonnés au camp de Lusanda prouve à suffisance.
À Ouvira,
oui, prouve à suffisance que nous avons un fichier corrompu. Et nous ne pouvons pas aller aux élections avec un fichier électoral corrompu. C'est pour cette raison que nous ne cessions de demander l'audit du fichier électoral avec toutes ses composantes. Et donc le représentant du secrétaire général des Nations Unies a totalement raison. Il faudrait passer à la révision du fichier électoral et le plus rapidement possible. Nous devons maintenant nous tenir cap vers les élections au lieu d'être distraits par l'appel au dialogue pour traiter des questions techniques qui relèvent exclusivement de la compétence du pouvoir organisateur. Et là, je me réfère à l'article 211 de la Constitution. Ce sont des compétences exclusives de la CENI. Nous ne pouvons pas amener les compétences exclusives, des questions techniques, comme l'a dit Maman Sadiku, amener des questions techniques à un dialogue politique.
Sinon, donc, vous êtes d'avis avec lui que c'est cette question des révisions du fichier électoral est politisée?
Oui, la question est fortement politisée. La question est fortement politisée. Nous devons dépolitiser cela. Chacun doit respecter ses prérogatives. Chacun doit faire le travail qu'il est appelé à faire. Laissons le pouvoir organisateur s'occuper des questions techniques qui relèvent de sa compétence exclusive. Et donc, il a raison de dire que cette question est politisée.
Les chefs de la MONUSCO estiment que nous n'avons plus assez de temps et que nous devons rapidement nous pencher sur cette révision du fichier électoral. Est-ce que vous pensez que la classe politique congolaise est consciente du fait qu'on n'a plus assez de temps?
Eh bien, il y a une partie de la classe politique congolaise qui est inconsciente ou qui le fait à dessein, qui a un agenda caché et qui ne voit pas que le temps n'est plus en notre faveur, et qui multiplie, et peut-être pour des raisons de distraction, distraire le peuple pour ne pas se focaliser à l'essentiel, c'est-à-dire cap vers les élections, pour que nous puissions respecter la Constitution, respecter les délais constitutionnels, s'agissant des élections présidentielles et législatives. Et donc, cette partie de la classe politique congolaise est en train de distraire le peuple tout entier. C'est pour cette raison qu'avec l'occasion que vous nous donnez, nous appelons le peuple congolais à nous focaliser vers les élections. 2016 est une année électorale, ne perdons pas le temps, ne soyons pas distraits, focalisons-nous vers la tenue de bonnes élections, des élections apaisées. Et c'est donc nous demandons un minimum de volonté politique de la part de tout le monde. Est-ce que ce qui distrait le peuple congolais à des dialogues, à des appels, où vous voyez, même avant la tenue de ces dialogues, Kinshasa, aujourd'hui, devient tout un album photo où l'on dépense des moyens colossaux pour des publicités qui n'amènent à rien. Alors, au lieu de mobiliser ces ressources-là, de donner au pouvoir organisateur le moyen qu'il faut pour qu'il nous amène vers de bonnes élections. Et pour qu'il y ait la tenue de bonnes élections, il y a des préalables.
Alors, puisque vous estimez qu'il est nécessaire, n'est-ce pas, de se pencher rapidement sur la révision du fichier électoral, faut-il, comme l'a rêvé l'honorable François Lecouyer, une révision partielle ou complète de ce fichier électoral?
Puisqu'il y a des morts qui sont encore dans ces fichiers, puisqu'il y a des millions de doublons, puisqu'il y a des étrangers qui sont enrôlés, vous savez la réalité de l'Est, de la République démocratique du Congo, puisque ce fichier est corrompu et ne peut pas garantir la tenue de bonnes élections, des élections transparentes, eh bien, il faut impérativement réviser le fichier électoral en enrôlant. Ça dépend de l'option qu'on va...
Dans sa globalité?
Ça dépend de l'option. Si le pouvoir organisateur trouve qu'on n'a pas assez de temps pour enrôler les Congolaises et Congolais âgés de 18 ans et révolus, la CENI peut tout simplement publier le fichier électoral actualisé sur un site où tous les Congolais auront accès, pour que celui qui ne trouvera pas, en tout cas, son nom sur le fichier électoral, qu'il soit enrôlé à temps opportun.
Merci, Jérôme Bosso, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'élite insible. Et vous êtes aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État insible. Le chef de la MONUSCO encourage la révision du fichier électoral. Votre analyse.
Merci, cher ami Guy. Avant de répondre à votre question, je salue Honorable Méry et Honorable François qui sont avec moi dans ces studios de la Radio de la Paix. Oui, nous parlons de la problématique du fichier électoral. Ça fait partie d'une de deux études que j'ai pu produire en octobre et en novembre sur la problématique du fichier électoral. Parce que personne n'ignore que le Congo organise les élections dans un contexte des élections atypiques qui, si on ne fait pas attention, ce sont des élections qui sont frappées d'un déficit de planification, qui ne devaient pas tenir, qui n'ont pas pu tenir compte des facteurs temps et moyens financiers. Et je suis d'accord avec le représentant du secrétaire général, le monsieur Maman, quand tu parles, nous ne perdons pas le temps. Mais je pense, nous avons déjà perdu le temps. Et pourquoi aujourd'hui on s'éveille aujourd'hui pour relancer la problématique du fichier électoral, tout en sachant que la République démocratique du Congo n'a pas la culture de registre d'état civil, tout en sachant que la République démocratique du Congo n'a pas fait le recensement depuis 1985. C'est partant du recensement qu'on procède au découpage des circonscriptions électorales, qu'on connaisse la taille. Et tant que nous n'avons pas pu faire ce recensement, nous n'avons plus un raccourci, c'est l'enrôlement des électeurs. En enrôlant les électeurs, il faut tenir compte aussi comment nous devons dépouiller de tout ce qui a été, tout ce qui est contenu dans ce support que nous appelons fichier électoral. Et aujourd'hui, le débat se pose et tout le monde est convaincu, que ce soit l'opposition, la majorité. Nos deux études que nous avons produites à la Linelite à État et en comparant, en faisant des convergences avec le rapport de l'audit de l'IF, et nous sommes arrivés à la conclusion sur laquelle notre fichier électoral est pollué et ainsi de suite. Est-ce que nous allons, avec un instrument pollué, un instrument inadapté, un instrument pourri, est-ce qu'on peut parler encore de réviser cet instrument? Nous disons non, c'est à la classe politique de réfléchir, de voir, avoir le courage, comment monter un nouveau instrument qu'on appelle fichier électoral. Oui, vous avez posé la question, honorable, parce que nous devons intégrer dans le fichier électoral les nouveaux majeurs. Nous devons intégrer les Congolais de la diaspora. Et c'est là que nous devons aussi arriver à produire de nouvelles cartes d'électeurs. Avec quel type de kit? Parce que les kits que nous avons, à son temps, il y en avait sur 7000 kits, on avait volé 4200 kits qui étaient partis dans d'autres pays voisins. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme. Mais aujourd'hui, nous venons de voir de preuves. Aujourd'hui, que le Burundais, réfugiés qui sont sur notre territoire, ils sont détenteurs de cartes d'électeurs. Parce que le législateur congolais avait dit que la carte d'électeurs pour les Congolais fait l'office de pièce d'identité, parce que nous sommes un peuple qui ne possédons pas les pièces d'identité. Et le pays voisin qui avait toujours envie d'avoir la nationalité congolaise, ils en ont produit en masse. Et aussi, pour une autre raison, ils ont eu aussi des cartes, c'est pour aider certains acteurs politiques lors des élections. La crainte qui était la mienne, la crainte qui est la nôtre, c'est de voir l'électorat doubler, tripler si on ne fait pas attention. C'est pourquoi nous avons dit, si nous allons réviser le fichier électoral, nous allons produire presque le même type de cartes d'électeurs qui sont déjà dans des réseaux mafieux, et nous aurons un électorat, une population électrice estimée qui sera plus de 40 millions 901 135 000 selon les estimations de la CENI, ça sera le double. Nous n'avons pas résolu le problème. Maintenant nous allons nous poser la question, quel type d'enrôlement que l'on fait partiel? Quelles sont les conséquences d'un enrôlement partiel, la révision du fichier électoral partiel? Nous allons arriver à une population réduite, parce que la population électrice de la population électrice congolaise en 2006 était estimée à plus de 25 millions. En 2011, plus de 32 millions. Et nous avons estimé en 2016 plus de 40 millions. Mais si nous allons faire un enrôlement partiel, nous allons avoir une population électrice de 17 266 631 avec comme centre d'inscription, avec comme centre d'inscription des électeurs, 6100, avec comme ça de ce qu'on va faire. Mais si nous allons dire, levons l'option pour une révision du fichier électoral total, nous allons couvrir plus de 40 201 135 000 électeurs, avec comme centre d'inscription pour avoir une cartographie de 19 100. Et là, ça va nous donner la chance à produire de nouvelles cartes d'électeurs. Ça va nous donner la chance de barrer la route à ces réseaux mafieux. Ça va nous donner la chance d'avoir un électorat fiable. Parce que l'important du fichier électoral, cher ami, c'est de produire des listes électorales fiables. C'est pas des listes électorales qu'on triche. C'est pas les listes électorales qu'on fraude. Mais si aujourd'hui les uns acceptent, nous sommes devant un fait accompli, le délai constitutionnel. Le délai constitutionnel se prépare en amont et en aval. C'est comme les élections doivent se préparer en amont et en aval. Mais pourquoi aujourd'hui, moi je pose la question, l'opposition s'agite, la majorité s'agite, la communauté intéressée s'agite, tous les partenaires techniques s'agitent. Ce n'est qu'aujourd'hui, pendant que nous n'avons plus le temps en main, est-ce que nous pouvons s'en sortir?
Monsieur Jean Porceau, parce que vous estimez qu'il faut nécessairement, n'est-ce pas, réviser totalement le fichier électoral, et vous évoquez les facteurs temps. Et à votre avis, quelle est l'approche qu'il faut utiliser? Faut-il enrôler les électeurs, comme le propose l'opposition, une classe et une partie plutôt de la société civile, ou faut-il passer par l'identification de la population comme les soutirer la majorité présidentielle?
Non, c'est une exigence légale, parce qu'on doit respecter trois opérations en cette matière. La première opération, il faut l'identification des électeurs. La deuxième opération, l'enrôlement et l'enregistrement, ce sont les trois opérations techniquement combinées. On ne peut pas les dissocier. À ce moment-là, la question c'est de dire, quelle option la majorité, l'opposition et les partenaires techniques vont opter? Ou bien, est-ce qu'on peut se référer aux dernières avancées technologiques en matière d'identification d'enrôlement? Ce qui est vraiment trop coûteux. C'est trop coûteux. Qui du gouvernement, qui des partenaires techniques et financiers de la communauté internationale s'hasarderait de débloquer autant de millions de dollars pour cette opération, parce qu'on peut mettre dans peu de temps. Mais ici, nous tablons sur les opérations du point de vue traditionnel, c'est-à-dire avec les avancées technologiques de dernière génération. À ce moment-là, on peut s'en sortir. Et maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Aller aux élections avec sur intégrer les nouveaux fichiers électoraux. Faire un recensement partiel ou total, nous disons, à ce moment-là, nous allons encore violer la loi parce que le législateur congolais a voulu que le nouveau majeur puisse être intégré, que les Congolais de la diaspora puisse être intégré, mais dans quel support aujourd'hui, tout en disant, moi, je fustige le comportement des partis pérennes de pousse électorale, qu'il s'agit de sonner au mois de janvier. Parce que le temps est en train de couler. Février, le temps est en train de couler. Et le temps est déjà parti. Comment nous allons rattraper le temps pour faire les élections apaisé. Moi, du point de vue technique, je dis, le temps que ça prendra pour faire les opérations du fichier électoral, moi, je ne parle pas de révision parce que le fichier étant pourri, on peut pas réviser quelque chose qui est pourri. La construction du nouveau fichier électoral, ça nous prendra combien de temps? Ça nous prendra combien de moyens financiers, de moyens techniques? Et il y a d'autres défis législatifs. Les honorables députés n'ont pas aussi disponibilisé les textes de loi liés à l'enrôlement des électeurs. Et tout ça, c'est un casse-tête. Donc, on doit cesser à diviser l'opinion par la classe politique, par les partenaires techniques et financiers qui sont conscients que nous sommes dans les possibilités d'organiser les élections congolaises du point de vue technique et politique, et nous devons nous retrouver pour trouver l'option consensuelle pour arriver à une gouvernance électorale consensuelle et concertée.
La présence de 22 cartes d'électeurs détenues par des réfugiés burundais dans les camps de Lucende au sud Kivu viole la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Annonce faite lundi à Kinshasa par Corneille Nanga, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Les descriptions de ces cartes avec le secrétaire exécutif national de la CENI, Ronsard Malonda, au micro de Paul Matendo.
La CENI a procédé d'abord à la vérification des codes des centres d'inscription imprimés sur chacune de ces cartes et se rendu compte que ce sont des codes erronés ou alors sont des codes incohérents, c'est-à-dire sont des codes qui correspondent à certains codes que nous avons, mais la suite, c'est-à-dire le lien entre le code et le nom du centre d'inscription n'est pas un lien exact. Et donc, c'est ce que nous appelons les codes non cohérents. À part ça, la CENI vérifie la date d'impression, les polices d'impression, les formats d'impression. Et tous ces critères de vérification ont conduit à la CENI à conclure qu'il s'agissait de fausses cartes d'électeurs imprimées ou produites par des voies autres que la voie officielle de la CENI.
Monsieur François Nzekouye, un mot par rapport à cette dénonciation, n'est-ce pas, de la CENI sur la mise en circulation de ces 22 cartes d'électeurs.
Oui, en fait, nous avions déjà des appréhensions par rapport à cette question. Souvenez-vous, quand le M23 est entré à Rutshuru, dans mon fief électoral, à ce temps, les M23 avaient emporté en Ouganda et au Rwanda des matériels de la CENI. Et à cette époque déjà, le M23 a commencé à produire des cartes d'électeurs. Comme vient de le dire l'expert de la CENI.
Est-ce que cela avait été dénoncé parce que c'était connu?
Absolument. Moi, personnellement, je l'ai dénoncé dans une émission de Dialogue entre Congolais ici.
Et quelles étaient les dispositions qui avaient été prises, n'est-ce pas, pour déjouer?
Mais en période de guerre, qu'est-ce que vous allez faire? Nous étions en période de guerre à ce moment-là. Et jusqu'aujourd'hui, étant donné que le M23 n'est pas encore rapatrié totalement, on suppose que ce matériel serait encore à l'étranger jusqu'à ce jour, jusqu'à preuve du contraire. La CENI n'a jamais dit qu'il a récupéré le matériel volé par l'M23 à son temps. Mais comme vient de le dire l'expert, effectivement, la délicatesse de ce genre d'opération, c'est que généralement, quand vous imprimez ce genre de cartes, vous n'avez pas les numéros qui est au niveau de la centrale électorale. Et donc, ce sont des cartes qui peuvent facilement être identifiées comme des faux. Mais la grande difficulté aujourd'hui, effectivement, nous avons 9 frontières. Et contrairement à ce qu'a dit mon ami Emery Okundji, les problèmes des non-nationaux qui disposeraient des cartes électeurs ne se posent pas qu'à l'Est. Ça se pose sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et c'est pour cela que je suis d'accord avec Jérôme Bosso qui dit que nous devons revenir à l'état civil, à l'OIF. Sa première des recommandations était de poursuivre la réforme de l'état civil sur la base d'un recensement général de la population à vocation d'état civil, en vue de créer à l'avenir des liens entre les données issues de ces travaux et la constitution du fichier électoral. Parce que vous vous souvenez, quand nous avons été enrôlés à l'époque, on demandait si quelqu'un vient avec 5 témoins qui attestent qu'il est congolais, on l'enrôlait automatiquement. Si vous disposez d'une carte ou un permis de conduire, vous êtes enrôlé automatiquement. Or, vous savez très bien avec quelle facilité ces genres de documents sont obtenus dans notre pays et comment les gens peuvent faire de faux témoignages sur des gens simplement par amitié. Et donc, aujourd'hui, on peut émettre un doute sur la crédibilité de tous les tenteurs de cartes électeurs au Congo, tout simplement parce que personne n'a disposé à son temps d'une pièce d'identité qui était du reste inexistante dans notre pays. Donc aujourd'hui, le fait d'enrôler tous les électeurs et passer dans un processus d'état civil pourrait garantir à ce que nous puissions savoir que ce sont réellement les Congolais.
Là, vous parlez, vous prenez les recensements, n'est-ce pas?
Oui, je reviens aux recommandations de l'OIF qui se trouvent pertinentes parce que autrement, nous allons nous retrouver toujours avec des situations contestables. Parce que je connais Emery Okundji, parce que je sais qu'il était là, originaire de tel endroit, mais tous les Congolais ne sont pas censés de connaître ses origines. Et donc on peut remettre en cause la nationalité d'Emery Okundji, d'autant plus que son nom ressemble à des noms de personnes du Nigeria. Donc ça veut dire que nous devons avoir des bases crédibles pour permettre à ce qu'on puisse identifier quelqu'un comme état congolais et lui donner le droit d'être éligible et électeur.
Honorable Emery Okundji, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, c'est qui vous?
Kitiza Kulimouche Evariste depuis la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. La révision du fichier électoral est une question technique, mais il n'est pas exclu qu'elle dépende à la fois des facteurs financiers et de la volonté politique, tous circonscrits dans un délai bien prévu par la loi suprême de la République démocratique du Congo. Et cela suscite la question de savoir la mesure d'encadrement que le secrétaire général de l'ONU contrait appliqué dans le but de motiver nos dirigeants à se conformer au calendrier constitutionnellement établi, car seule la volonté ne suffira pas pour relancer ce processus électoral dont le retard fait l'objet des laboratoires des unes et des autres parties prenantes aux élections, surtout en cette période de la législature. La parole est une chose, l'action en est une autre.
Seule la volonté politique ne suffira pas pour relancer ces processus électoraux, Emery Okundji.
Évariste a raison, mais il faut d'abord la volonté politique. Un, de respecter la constitution de la République et les lois qui nous régissent. Guy Maté, j'ai avec moi la loi que nous venions de voter, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015. Modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011. Quels sont les objectifs poursuivis, Guy Maté? Le premier objectif, organiser l'enregistrement permanent des électeurs en lieu et place de l'enregistrement périodique.
Et donc, un recensement.
Oui. Et alors, que faisons-nous de cette loi? Depuis qu'elle a été adoptée, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que cette loi soit respectée?
Alors, parce que le recensement, jusque-là, n'a jamais été organisé.
Voilà.
Il faut le faire maintenant.
Mais il se pose un problème du temps maintenant. Et donc, tout dépend du pouvoir organisateur qui a prêté serment de respecter la Constitution et les lois de la République. Aujourd'hui, la CENI s'est ouverte dans une très mauvaise posture si la CENI proposait un calendrier qui viole la Constitution.
Alors, comment concilier la nécessité, n'est-ce pas, de procéder par un recensement de la population et la nécessité d'organiser les élections dans les délais constitutionnels?
C'est là où il faut qu'il y ait une volonté manifeste, une volonté politique réelle. C'est-à-dire...
Cette volonté politique va s'exprimer à travers quelle... une décision ?
À travers, par exemple, le respect du plan de décaissement de moyens financiers à la CENI, au pouvoir organisateur.
Et vous ne pensez pas que là vous rejoignez M. Nzekouye qui pense qu'il faut que, compte tenu de toutes ces difficultés-là, que les gens se retrouvent autour d'une table pour essayer, n'est-ce pas, de dégager un consensus?
Nous n'avons pas besoin d'un dialogue politique pour régler des questions techniques qui relèvent de la compétence exclusive du pouvoir organisateur. Je fais référence ici à l'article 211 de la Constitution Guimaté. Nous devons plutôt donner à ce pouvoir organisateur les dialogues, les principes du dialogue. Nous avons été le premier à le proposer, juste après la publication du calendrier électoral global, que nous avions tout de suite là trouvé irréalisable et irréaliste. Et nous avions proposé que nous puissions nous retrouver autour du pouvoir organisateur pour ces dialogues-là, pour que nous puissions voir qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Afin de respect, oui, s'il y a dialogue, si dialogue il y a, c'est autour du pouvoir organisateur, puisque les questions qui seront traitées relèvent de sa compétence exclusive. Nous n'irons pas traiter avec le président de la République autour des dialogues politiques où il a appelé toutes les couches sociales de la société régler des questions qui relèvent exclusivement de la technicité de la CENI.
Merci, M. Jérôme Bosso. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kananga.
Marve Tshisambika, je vous appelle à partir de la province Kasaï centrale. L'encouragement de la révision du fichier électoral fait par les chefs de la MONUSCO est un acte responsable et interpellateur, car le premier calendrier électoral qui a été publié par l'ancienne équipe de la CENI était contesté par la majorité des Congolais. Cependant, tous sont appelés à s'engager chacune à sa compétence pour aboutir à un processus électoral apaisé. En somme, le défi est lancé spécialement à l'actuelle équipe de la CENI qui, la taille de sa mission, est obligée de faire pour que tout se fasse dans indépendance, transparente et selon ce que prévoit la Constitution à ce sujet.
Oui, Monsieur Bonso.
Oui, nous saluons l'initiative, c'est que M. Aman Sambo a parlé, a essayé de tirer la sonnette d'alarme, quand bien même c'est tard, à notre niveau, du point de vue technique et organisationnel, que tous ces genres de sonnets d'alarme sont tirés déjà avec un retard, le temps est déjà passé, et nous sommes en train de faire, de voir dans quelle mesure nous devons courir derrière le temps, et notre ami de Canan que je salue, Kisambiko, qui parle de la vision du fichier électoral, et il y a eu tentative, effectivement, organisation des élections par le calendrier électoral. La première tentative, c'était celle du 30 janvier 2014, avec la feuille de route, où la CENI avait demandé l'argent, cette tentative a échoué. La deuxième, celle du 26 mai 2014, feuille de calendrier électoral partiel qui a échoué, et la dernière tentative, c'est la troisième, avec la publication du 12 février 2015 du calendrier électoral global, avec 23 contraintes, ça a échoué. Mais le défi qu'on lance à la nouvelle équipe de la CENI, dans les commas électoraux, elle ne bouge pas, elle est paralysée. Par manque de moyens, honorable Mairie vient de parler.
Et donc, la CENI processus... actuellement, elle dépend de la volonté de la classe politique.
La CENI neutralisée, la CENI dépend de parties prenantes au processus électoral, de la majorité de l'opposition, de partenaires techniques et financiers, de la communauté internationale, de la société civile. La CENI est paralysée du fait que son plan de décaissement est déjà caduque. C'est inopérant. Quand une organisation n'a plus un plan de décaissement qui est opérant, qui n'a pas une autonomie financière, que nous avons plaidé pour que la CENI puisse être dotée d'une autonomie financière, au regard du législateur, la CENI n'en a pas. La CENI croise le bras et le temps est en train de partir. Quand même, M. Sam, le représentant de la MONUSCO, a parlé qu'il va saisir le Conseil de sécurité. Mais effectivement, ça va prendre combien de temps? Parce qu'il faut que le Conseil de sécurité puisse donner les nouveaux termes de référence à la MONUSCO. La MONUSCO n'a plus la direction électorale ici. Elle est partie, la MONUSCO n'a plus de temps. Ça prendra combien de mois? Pas moins de 3 à 4 mois pour connaître la lourdeur de la machine des Nations Unies. Et tout ça, c'est du retard. Quand est-ce qu'on va inventer les récentes technologies qui puissent nous permettre de faire l'enrôlement des nouveaux majeur, l'enrôlement général, la construction de nouveaux fichiers électoraux, avec de nouvelles avancées technologiques, en peu de temps, dans moins de 3 à 4 mois que certains acteurs politiques ont téléchanté, ça va nous prendre du temps. Et vous voyez que le temps est déjà parti. Le temps est déjà devant nous. Nous courons derrière le temps. Ce n'est pas aujourd'hui le Conseil de sécurité qui va faire un miracle pour ramener le processus pour que ça puisse être un processus vraiment normal. Parce que nous nous trouvons maintenant dans un processus électoral atypique. La loi dit les élections sont organisées après chaque échéance de 5 ans. Mais nous sommes au-delà. Il y a le Sénat qui a dépassé. Il y a les députés provinciaux et ainsi de suite. Pourquoi nous devons maintenant voir dans quelle mesure nous pouvons trouver une solution capable de ramener le processus électoral sur le bon rail? Si on ne le fait pas, est-ce qu'il faut encore chanter l'organisation des élections APC dans notre pays? Nous disons non,
c'est la classe politique. Les experts de l'OIF ont aussi estimé que si on enrôle, n'est-ce pas, les électeurs et que l'on radie les personnes décédées, ça peut permettre d'avoir un fichier électoral fiable et qui peut permettre, n'est-ce pas, l'organisation des élections dans les délais constitutionnels.
Dans combien de temps?
Ce n'est pas réaliste.
Dans combien de temps? Moi, j'ai eu une licence de travail avec les experts de l'OIF. Moi, j'ai eu dans combien de temps? Est-ce que vous avez pu faire l'étude des faisabilités de la mise en œuvre du fichier électoral? Et est-ce que vous avez le chronogramme? Ils ont reconnu, il faut qu'ils puissent revenir pour avoir un nouveau thème de référence avec la CENI pour faire le chronogramme. Et eux-mêmes, ils ont reconnu dans l'étude. Et quand l'étude que j'ai produite en date du 16 novembre, j'ai démontré que l'étude de l'OIF était inachevé, il devait l'enrichir parce qu'il n'était pas basé sur certaines données techniques qu'il devait intégrer pour donner une idée qui pourrait aider la classe politique et le pouvoir des élections de s'en sortir.
Alors, en guise de conclusion,
nous invitons la classe politique à ne pas s'attarder à nous faire organiser les élections politiques comme en 2011. Nous les invitons à une gouvernance électorale concertée et consensuelle pour que nous puissions être capables de barrer la route. Il y a déjà des réseaux mafieux qui possèdent des pièces d'identité partout. Si nous risquons de nous trouver devant un électorat de double que la population congolaise, et ça sera encore décrié comme en 2011. Quel peuple, quelle nation qui doit toujours aller dérater en matière organisationnelle des élections. Et nous disons cette fois-ci, la majorité de l'opposition doit nous séparer. C'est cette humiliation électorale.
Alors, il y a une question qui vous adresse, elle vient de Kalemi.
Maître Omari Mena, à partir de Kalemi, il est judicieux que le fichier électoral de la République démocratique du Congo soit révisé afin de bénéficier les nouveaux majeurs de participer aux élections à venir. Le pouvoir en place ne doit pas user de cette révision-là pour prolonger son mandat ou encore appliquer le glissement qui est chaque jour décrié. Mais ce que nous devons aussi rappeler au pouvoir en place, c'est qu'il a l'obligation d'agir en bon père de famille. Donc il doit agir au bénéfice du peuple congolais.
François Zekouyé.
Je crois que il y a pas de contradiction entre ce que dit l'auditeur et ce que nous pensons. Il faut effectivement enrôler les nouveaux majeurs. Comme je vous l'ai dit, c'est 8 millions de personnes qui ont le droit d'être électeurs et d'être éligibles. Alors la question des glissements qu'il évoque, on ne glisse pas parce qu'on veut glisser. Le Sénat est là, il a glissé. Les gouverneurs, les députés provinciaux ont glissé pendant 4 ans sans l'avoir voulu parce que on a estimé qu'il faut réexaminer.
Et donc, une jurisprudence, vous voulez...
Nous ne disons pas qu'il faut une jurisprudence, Guy Maté. Nous disons que si glissement il y aura, ce ne sera pas un acte volontaire de qui que ce soit. Mais qu'il vaut mieux un glissement...
Ça ne sera pas une décision
Guy Maté, il vaut mieux un glissement en ayant un fichier électoral correct, en ayant un calendrier électoral correct, en ayant un processus électoral crédible qui amènera des résultats non contestables.
C'est le plus important.
En guise de conclusion, nous encourageons donc la CENI à mettre tous les moyens techniques pour revoir les fichiers électoraux et la classe politique à se réunir pour pouvoir avoir un calendrier.
Vous encouragez la CENI à vous donner les moyens, donc elle a besoin pour.
Il ne me revient pas à moi en tant qu'individu de donner les moyens. L'Assemblée nationale a voté un budget dans lequel on a prévu des moyens à allouer à la CENI.
Merci.
Et donc nous estimons aujourd'hui que la classe politique doit se réunir pour ce qui concerne le calendrier électoral consensuel.
Merci, honorable Okundji, votre conclusion.
Eh bien, nous redressons nos fronts longtemps courbés, Guy Maté, pour dire non à un quelconque troisième mandat, non au glissement, non à la violation intentionnelle et intempestive de la Constitution, oui aux élections présidentielles et législatives dans les délais constitutionnels, merci. Oui à l'alternance démocratique, oui à la consolidation de notre jeune démocratie.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Paul Badianama qui était à la technique. Merci à toute l'équipe Dialogue entre Congolais. Alain Irung, Kaline Kouté, sous la supervision de Julien Nyamouini, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi.